Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Dissolution des partis politiques, la procédure à renvoyer devant la Cour constitutionnelle sur le thème qui sera débattu au cours de ce grand dialogue. Le tribunal de grande instance de la commune 1 de Bamako a déclaré recevable la plainte de partis politiques et ordonné la transmission de la procédure à la Cour constitutionnelle via la Cour suprême. Nos arguments ont été entendus et nos demandes satisfaites, se réjouit Maître Mouta Gatal, membre du pôle d'avocats des partis politiques. Que vaut donc cette décision rendue par le tribunal de grande instance de la commune 1 permettra-t-elle aux partis politiques de reprendre leurs activités? Cette saisine de la Cour constitutionnelle aura-t-elle une suite? Nos invités pour en parler, Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste, Dr Ahmadou Touré, expert en médiation et gouvernance locale. La présentation, je suis Mrana Kilomega, invité auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Le tribunal de la commune 1 ordonne le sursis à statuer jusqu'à l'examen définitif de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée. Que vaut donc cette phrase pour laquelle les avocats des partis politiques se disent satisfaits, Ibrahim Ben Mamata Touré?
Merci beaucoup pour la question. Bonsoir d'abord aux auditeurs qui nous suivent et à mon co-débatteur et à vous-même. La question, elle est éminemment pertinente parce que ce qu'il faut comprendre sur ce que vous venez de lire, le sursis à statuer d'abord en droit, qu'est-ce que c'est? C'est cette question qu'il faut se poser. Le sursis à statuer, c'est une mesure qui permet au juge de sursoir, de suspendre provisoirement, c'est-à-dire sa décision à venir sur une question posée. Donc, il prend cette mesure dans la dynamique d'attendre d'une autre juridiction mieux compétente qu'elle pour que ce dernier puisse se prononcer sur l'affaire soumise à son jugement. Donc, le sursis à statuer permet de suspendre temporairement la décision du juge, du premier juge, celui de la commune 1, sur l'affaire qui lui a été soumis, afin que voilà une autre juridiction mieux outillée puisse se prononcer sur la question. Donc les avocats se sont dit réjouis de cette décision, tout simplement parce que le droit a été dit. Le droit a été dit parce que le fondement de ce sursis-là vient directement de l'article 153 de la Constitution du Mali. Donc le droit a été dit. Et les avocats ont cherché à amener le juge à ce niveau, ils ont réussi. Donc les partis, le pôle d'avocats et la juridiction est à saluer dans ce sens.
Quand vous dites que le droit a été dit, exactement de quel droit a été dit dans tout cela?
Bon, le droit a été dit. Pour comprendre cela, il faut interroger l'article 153 même de la Constitution, qui prévoit ce mécanisme de sursoir jusqu'à ce que le dossier puisse être transmis au niveau de la Cour suprême. Et au niveau de la Cour suprême, cette juridiction a un rôle de filtrage d'abord et il sert de canal pour que la procédure puisse être acheminée au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que nous sommes dans un domaine éminemment constitutionnel. Qu'est-ce qui a été attaqué? Il y a une confusion à ce niveau parce que quand on regarde de près la question, il y a un certain nombre d'actes qui se sont posés. D'abord, il y a eu la loi d'abrogation des deux lois, c'est-à-dire la loi portant charte des partis politiques et la loi portant statut de l'opposition. Donc, il y a une nouvelle loi du 13 mai qui est intervenue pour abroger ces deux. Donc, ce qui faisait que les partis n'étaient pas dissous, c'est les instruments régulant la vie de ces partis-là qui étaient balayés par cette loi. Donc, c'est cette loi-là qui a été attaquée maintenant au niveau de c'est les effets de cette loi-là qui ont été attaqués au niveau de la juridiction de la commune 1. Quels sont ces effets? l'atteinte aux droits et libertés, c'est-à-dire liberté de réunion, liberté d'association, etc., etc. Donc le tribunal de première instance ne peut, en l'état, statuer sur une question fondamentalement constitutionnelle, d'où l'exception d'inconstitutionnalité a été soulevée. Et l'article 153 de la Constitution le prévoit que lors, en cours d'instance, lorsqu'il y a constatation d'une violation des droits et libertés fondamentales, donc le juge se doit de sursoir à statuer d'abord. Le dossier est transmis au niveau de la Cour suprême et la Cour suprême aussi va transférer ce dossier-là au niveau de la Cour constitutionnelle. Et c'est différent du décret de dissolution qui est une autre procédure qui relève du droit administratif. Et si vous en suivant vous-même vos informations qui sont vraiment limpides, on se rend compte que le décret a été attaqué par devant le tribunal, la section administrative de la Cour suprême. Donc il y a des procédures qui sont lancées par rapport à ces questions-là. Mais la différence, c'est de faire le distinguo entre le décret et la loi. La loi relève de la constitutionnalité. Maintenant, le décret, c'est purement administratif. Et il est question de la loi dans cette procédure-là, pas du décret, qui est déjà attaqué au niveau de la section administrative de la Cour suprême.
D'accord. Docteur Ahmadou Touré, ce sursis a statué jusqu'à l'examen définitif de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée. Peut-elle être une mesure de fierté pour les partis politiques?
Merci, Mélo. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Sur la question du renvoi, la première lecture est que ce qui ressort carrément, c'est l'exercice démocratique. Donc, il y a le respect de l'état de droit. On a aussi le fonctionnement des institutions qui s'affirme. Donc, pour les partis politiques, d'aucuns disent que c'est une première victoire. D'aucuns pensent aussi que c'est la procédure normale. Donc, ce qui illustre bien à point nommé, le fait que le tribunal ait accepté de recevoir et de renvoyer au niveau de la Cour constitutionnelle, pour moi, c'est une illustration parfaite de la séparation des pouvoirs. Donc, c'est-à-dire une séparation des pouvoirs pour dire que la procédure judiciaire suit son cours. Quant à la Cour constitutionnelle de dire oui ou non, il y a inconstitutionnalité ou constitutionnalité du décret. Donc, pour une grande majorité des partis politiques ou des déclarations suivies de part et là, d'aucuns pensent que c'est une victoire, mais d'aucuns pensent que c'est une procédure normale. Quand il y a sursis, il faut forcément que l'instance suprême, qui est la Cour constitutionnelle, puisse constater ce qui a été attaqué, viol ou non, la Constitution, pour ensemble, une décision puisse être prise dans ce sens. Donc moi, à mon niveau, je peux dire tout simplement que tout ce qui se passe actuellement nous prouve à suffisance que nous sommes tous dans l'exercice démocratique, les institutions de contrôle fonctionnent, la liberté d'expression, la liberté d'attaquer est toujours autorisée. Donc c'est le droit des individus, quand on n'est pas content d'une décision ou d'un décret, on a le droit d'aller porter plainte pour chercher à ce qu'on puisse rétablir au cas où on n'est pas dans ce droit.
Pendant ce temps, certains tribunaux de Bamako, notamment la commune de Troua, se sont déclarés incompétents à juger cette affaire. Comment comprendre cette décision de ces tribunaux qui se déclarent incompétents à juger pendant que un autre tribunal de la commune 1 de grande instance a déclaré recevable la plainte des partis politiques?
Bon, ça pourrait dépendre de deux choses. D'une première analyse, ça pourrait dépendre de la nature des éléments déposés au niveau de ce tribunal et ça pourrait dépendre aussi de la compétence de ce tribunal. Parce que comme on a dit, quand un dossier est pendant au niveau des services judiciaires, c'est que le juge en question, mais le dossier en question devant le tribunal s'imprègne du dossier et l'état du dossier et comment le dossier pourrait être jugé. Quand un tribunal se déclare incompétent, parce que, à l'avis du tribunal, le dossier n'est pas, je pourrais dire entre guillemets, le dossier n'était pas aussi, on peut pas dire que le dossier n'était pas aussi bien ficelé, mais quand le procureur ou le juge se déclare incompétent ou compétent, on peut dire qu'il y a des éléments qui sont les éléments qui pourraient motiver, des éléments qui motivent ces décisions. Mais généralement, nous qui sommes les citoyens lambda, extérieurs, on peut dire qu'il y a des éléments qui peuvent nous échapper. Mais une première lecture, on peut dire que c'est les éléments ou les éléments déposés ou certaines informations qui nous ne disposons pas, qui pourront pousser les juges à dire ou le tribunal à se déclarer compétent ou incompétent. Et par exemple, on ne peut pas dire qu'un a accepté, l'autre n'a pas accepté. C'est porter un jugement, pour moi, une très mauvaise lecture. Parce que comme le tribunal, nous, on est extérieur, on a dit aussi qu'il y a des éléments que nous ne disposons pas. Donc nous pouvons dire, nous pouvons nous garder de ne pas juger. Parce que c'est très difficile. Et je parle sous le contrôle du grand frère. C'est très difficile. Parce qu'en matière de juridiction, en matière de juridiction de dossier, c'est très difficile. Parce qu'il y a la nature du dossier, les pièces à conviction et la compétence du tribunal souvent qui pourrait être mise en cause.
D'accord. Ibrahim Bermamata Touré, vous êtes juriste en la matière. Et quand est-ce qu'on peut se déclarer incompétent à juger une telle affaire?
Bon, généralement, l'incompétence peut être de différentes natures. Et il peut exister l'incompétence territoriale. Une juridiction peut estimer qu'une affaire n'est pas de son ressort territorial, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'espèce. Il peut se déclarer incompétent par rapport à la matière soumise à son jugement, tel que on s'approche un peu de cela dans le cas d'espèce, parce que la technicité de cette procédure est que généralement, elle n'est pas courante. On peut même dire, entre guillemets, que c'est une innovation, parce qu'elle est rattachée à une saisine de la Cour suprême via le tribunal de première instance. Donc, la question de violation des droits et libertés, sans la disposition de l'article 153, on peut comprendre que c'est une question qui relève soit du droit administratif, soit du droit constitutionnel, parce que ces libertés-là sont garanties par la Constitution. Donc, s'il y a violation de ces libertés et de ces droits, on s'interroge. Donc, c'est des questions qui viennent de la Constitution, pas du droit civil, pas du droit correctionnel, mais du droit constitutionnel. Donc, je peux comprendre l'incompétence soulevée par ces juridictions dans ce sens-là, parce qu'ils estiment que la question soumise relève peut-être de la Cour constitutionnelle. Mais sauf que maintenant, les dispositions de l'article 153 prévoient le mécanisme pour introduire l'action dans les juridictions de première instance et pour que le dossier soit au niveau de la Cour constitutionnelle. Maintenant, dire qu'il y a incompétence, cela s'apparente un peu à des articles du Code de procédure civile, commerciale et sociale, en ces articles 382 et 383, qui parlent également de sursis à statuer. Ces articles donnent la latitude au juge de sursoir à décider d'une question qui lui est soumise jusqu'à ce qu'une autre instance mieux outillée puisse rendre sa décision. Donc, souvent, il y a une amalgame entre incompétence et sursis à statuer. Il y a des juridictions qui balancent entre les deux notions. Pour rejoindre aussi mon frère, il a dit quelque chose qui est très, très important. À côté de l'application de la règle de droit, il y a quelque chose aussi dans la justice qu'on appelle l'intime conviction du juge, les pièces. Donc, nous qui sommes extérieurs au dossier, nous ne savons pas quelles sont les véritables motivations que ces juges-là ont eues pour se déclarer incompétents. Nous ne pouvons que émettre des hypothèses, essayer de comprendre, mais sans pour autant, en réalité, toucher du doigt les raisons qui ont amené ces juges-là à aller dans ce sens.
La requête déposée à la section administrative de la Cour suprême n'a toujours pas obtenu une réponse selon les avocats des partis politiques. Doit-on s'attendre à ce que celle transmise à la Cour constitutionnelle ait une réponse?
Bon, on ose l'espérer parce que nous sommes en pleine refondation dans ce pays, dans tous les domaines. Et nous pensons que nous n'allons plus revivre les cas de dossiers qui dorment dans les juridictions après des saisines. Surtout, celle-là est de portée essentielle et majeure. Et cela fera cas aussi d'une grande révolution dans le secteur de la justice. Parce que l'exception de constitutionnalité, comme j'ai eu à le dire, c'est une question qui vient rarement dans nos juridictions. À la limite, elle est comparable aux questions de QPC en France, des questions prioritaires constitutionnelles. Donc, c'est des matières assez techniques, assez sensibles, qui ne sont pas courantes dans la pratique malienne. Et cette affaire, elle est à suivre pour tout juriste, pour tout chercheur, parce qu'elle peut être véritablement une grande révolution dans le droit malien. Donc, on ose espérer que les juridictions saisissent, puissent prendre toutes leurs responsabilités à aller au bout de cette affaire, et aussi à rassurer les citoyens que, véritablement, en République du Mali, nous sommes dans un esprit démocratique et que la séparation des pouvoirs est une réalité. Nous espérons vraiment cela.
Cette contestation en cours des avocats des partis politiques est-elle nécessaire?
Oui, bon, d'un point de vue, c'est, pour eux, c'est nécessaire parce qu'ils disent qu'ils étaient lésés, que c'est leur droit, et qu'ils ont constaté par le décret qu'eux-mêmes ils ont jugé, que ça n'accepte pas la constitution d'après les propos du collectif d'avocats. Et comme je l'avais dit au départ, c'est tout à fait normal quand on est dans un état de droit, un état où l'église démocratique y est, quand on ne veut plus faire comme le passé, aller faire des marches, la violence, utiliser des moyens non légaux pour réclamer ce droit. Donc il fallait aller devant le tribunal pour s'exprimer et déposer la requête soutenue par un collectif d'avocats. Donc, et l'État aussi, le fait même que l'État accepte que l'État se constitue, parce qu'il y a deux parties. Parce que l'État est présent, le collectif est présent. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans l'existence démocratique, le respect de l'État de droit.
Le contentieux de l'État.
Le contentieux. Donc, c'est pour dire qu'il y a la séparation des pouvoirs. Donc, chacun joue son rôle. Autour de quoi? Autour de la constitution, autour du droit, autour de la séparation des pouvoirs. Donc, c'est pour dire que nous allons, comme l'a dit le grand, nous allons suivre. Parce que c'est un cas d'école, parce que ça ne se passe pas tous les jours dans nos pays. Donc, la force des arguments va dépendre de l'issue de ce procès.
Est-ce qu'elle peut aboutir?
Oui, normalement, ça va aboutir. Parce que, comme je l'ai dit, le contentieux de l'État va amener les preuves. Ça, c'est sûr. Le collectif aussi va amener les preuves. Donc, maintenant, quant à la Cour, de juger la non-constitutionnalité ou la constitutionnalité du dossier. Donc, tout va se jouer à ce niveau. Et qu'est-ce qu'on constate de ces deux jours? Ce qu'on a fait en philosophie, on appelle la rhétorique, et une décision historique des sages. C'est ça que chacun essaie de jouer, ça s'attire un peu l'attention des sages. Mais ce que j'ai à dire, même aujourd'hui, je sais pas, ce matin, j'ai vu que la Cour a validé déjà. Donc, c'est pour dire que la Cour, elle va statuer. Certes, elle va statuer. En fonction des éléments, en fonction.
C'est la loi organique.
La loi organique concernant
le nombre de membres du gouvernement.
Donc, c'est vrai que la Cour, elle joue son rôle. C'est-à-dire que dès qu'on dépose, il y a beaucoup de cas où la Cour donne son avis. La Cour, quand on donne son avis, la Cour prend en compte parce qu'elle elle est la gardienne. Parce que, comme on l'a dit, on fonctionne à cause de la constitution n'est pas. C'est pas faux. La constitution, c'est notre point de départ, c'est notre base. Quel que soit Alpha, je sais que la Cour va réagir. Maintenant, ça sera en fonction des éléments que les deux côtés vont apporter. Le contentieux de l'État, certainement, va apporter des preuves pour dire que voici, on a respecté la procédure. Les avocats aussi vont. Donc, c'est pour dire que, dans tous les cas, on doit s'attendre à ce que la Cour réagisse. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui ou demain, comme la juridiction, les juges ont leur temps, qui n'est pas seulement le temps le temps du citoyen lambda. Nous, on est très pessimistes. Ils prendront le temps nécessaire pour nous donner la suite à ce procès.
D'accord. Ibrahim Ben Mamata, cette décision du tribunal de la grande instance de Bamako, de la commune 1 de Bamako, permettra-t-elle aux partis politiques de reprendre leurs activités?
Ben, aucunement, parce que la juridiction de première instance de la commune 1 n'a fait que suivre, c'est-à-dire les injonctions de la disposition de l'article 153, c'est-à-dire constater que effectivement, il y a une question de constitutionnalité ou d'inconstitutionnalité dans la saisine. Et c'est exactement ce que les avocats voulaient et ils l'ont soulevé. Ils ont soulevé cette question-là. Ce qui a amené le juge à sursoir à statuer. Donc le juge ne s'est pas prononcé sur l'affaire en tant que telle. Donc jusqu'à preuve du contraire, la suspension, la dissolution et même les chartes et autres là restent en l'état comme le gouvernement l'a prévu. Rien ne peut lever ce verrou-là si ce n'est une décision rendue au niveau soit de la Cour constitutionnelle qui est saisie par rapport à la question d'atteinte aux libertés et au niveau de la section administrative de la Cour suprême relatif à la saisine du au recours pour excès de pouvoir du décret de dissolution. Donc tant que cette décision n'intervienne pas, donc le blocus reste sur les partis politiques et les associations à caractère politique.
On l'avait annoncé tout à l'heure, certains partis et certains tribunaux se sont déclarés incompétents. Le même cas pourrait-il se produire à la Cour constitutionnelle?
Aucunement pas, parce qu'elle est saisie d'une affaire qui relève de son champ, de ses compétences. Elle a l'obligation de statuer là-dessus. C'est le vœu que je disais, que l'espoir, c'est que vraiment cette Cour aille au bout, prenne toutes ses responsabilités, parce que c'est un cas d'école, c'est quelque chose de très très pertinent pour le droit malien. Donc la Cour doit jouer sa partition, soit éclairer les uns et les autres sur la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité de la loi attaquée. Donc moi je pense que nous pouvons garder espoir qu'il y aura une suite.
D'accord. Dans cet état-là, est-ce qu'on peut dire que la Cour constitutionnelle peut juger irrécevable la requête de partis politiques?
Bon, comme je l'ai dit toujours, ça dépendra des éléments, parce que c'est des sages. Aucunement, la Cour, avec les compétences, quand on parle de la constitution ou l'inconstitutionnalité, même le dossier en question, la Cour pourrait se déclarer incompétente, mais ça dépendra, comme je le dis toujours, des éléments d'appréciation que nous ne disposons pas. Mais dans le cas spécifique du Mali et du contexte, moi, je dirais qu'il est important que la Cour donne son avis pour que nous puissions dépasser cette étape, parce que c'est un blocus qui est là, c'est un jeu politique qui, je ne le dirais pas, mais ça est en train de donner un peu d'animation, ça joue sur les nerfs. Donc, c'est-à-dire que les gens sont là en train d'attendre. Donc, le fait que la Cour va recevoir le dossier et la Cour va donner son avis par rapport à l'inconstitutionnalité ou la constitutionnalité du dossier, à mon avis, va amener à ce que ce dossier soit classé et que les prochains défis du Mali seront attaqués directement. Donc, on ne peut pas dire que la Cour doit accepter, elle ne doit pas accepter, mais à ce point de vue, et comme je l'ai toujours dit, en matière de juridiction, souvent il faut des réserves, il faut de la prudence. Parce qu'il y a des éléments dont on ne disposons pas. Il y a eu des cas où la Cour s'est jugée incompétente, dans les cas où la Cour a donné son avis. Donc tout dépendra des jours à venir.
Comme vous le dites, hein, s'il arriverait à ce que la Cour constitutionnelle classe le dossier sans suite en donnant raison aux autorités, à quoi faut-il s'attendre?
Bon, rien, parce que ni n'est au-dessus de la Constitution, ni au-dessus de la loi. Parce que si on fait confiance à la Cour, quel qu'en soit l'avis que la Cour va donner, on doit l'accepter. Et comme je l'ai dit, la force reste à la loi. Parce qu'on est là, parce que la loi est là. Et l'île n'est aussi puissant que la loi. Donc l'île n'est aussi la loi. Si la Cour déclare que le décret viole la Constitution, c'est fini. Si la Cour déclare que le décret est constitutionnel, moi je pense qu'il faudrait qu'on aille de l'avant. Mais tout dépendra de l'appréciation de la Cour et des arguments et des débats que les deux, le collectif d'avocats et l'État aussi, va apporter devant les dossiers versés. Et bien les pièces qui seront versées devant la Cour va certainement décider.
Si le cas venait se produire, est-ce que les partis politiques pourront attaquer la décision au niveau des juridictions internationales?
Oui, c'est parce que, comme je l'ai dit, il y a toujours des possibilités en matière de droit. C'est-à-dire que quand tu n'es pas content d'une décision, tu peux... Mais au lieu d'aller dans les juridictions nationales et internationales, je pense qu'au sous-régional, je pense qu'on devrait faire confiance à la Constitution. Parce que c'est notre point de départ, c'est notre base. Et c'est une première, bon, je ne dirais pas une première, mais ça a fait que ça a coulé beaucoup d'encre, c'est très suivi. Et je fais confiance, parce que si vous partez, on a vu où le Mali a porté plainte dans les juridictions, le Mali a gagné, mais ça n'a pas d'effet. sur le plan national. Donc, est-ce que ces juridictions peuvent imposer une décision contraire au niveau national
connaissant,
c'est une question que je me pose, parce que connaissant notre constitution, les trois principes, donc si c'est très, très très moi je pense qu'on doit gérer, comme on dit généralement, les linges sales se lavent en famille. Je pense que la Cour, dès qu'elle donne son avis, je pense que chacun des partis politiques concernés devront accepter comme l'État. C'est-à-dire que tout à ce jour, personne ne sait si c'est l'inconstitutionnalité ou la constitutionnalité, mais les gens attendent, les gens suivent de près. Moi, je pense qu'on devrait faire confiance à la Cour au lieu d'aller dans d'autres juridictions internationales.
Monsieur le juriste, est-ce que vous pouvez donner une réponse à cette interrogation?
Oui, oui, je pense qu'il a émis des pistes très, très prometteurs parce que au-delà des juridictions existantes au Mali, si on n'est pas d'accord, on peut amener la procédure à l'international. Voilà, si on obtient gain de cause, il y a des mécanismes aussi pour que cela soit exécuté. Voilà, ça peut prendre du temps, mais voilà, c'est des voies de recours aussi qui sont offertes aux justiciables. À défaut d'être satisfait sur le plan national, on peut aller à l'international ou au niveau sous-régional. Donc il a rappelé des cas où nous avons gagné des procédures au niveau sous-régional. Maintenant, l'applicabilité de ces décisions-là aussi, c'est toute une procédure à suivre. C'est lent, c'est ce qui fait qu'on pense souvent que ça n'a pas d'effet parce que voilà, il y a des va-et-vient, il y a des procédures à suivre. Donc au-delà de ça, il y a une question très très importante, c'est de savoir maintenant l'hypothèse où la Cour venait à refuser, à dire que les partis politiques, il n'y a pas d'inconstitutionnalité. Donc, à ce niveau, le blocus va rester, le gouvernement va continuer son projet de refonte de la charte des partis politiques et assainir un peu ce secteur. Dans le cas inverse, voilà,
Est-ce qu'il existe une chance à ce que la Cour constitutionnelle remette en cause le décret présidentiel et remettre les partis politiques dans leurs droits?
Maintenant, il y a une chance pour les deux hypothèses. Parce que quand une Cour est saisie par rapport à la constitutionnalité ou inconstitutionnalité d'une loi, la décision peut être favorable à l'un et défavorable à l'autre vice-versa. Donc ce sont les sages de la Cour qui ont les outils nécessaires pour apprécier cela. Hein? Très cher, si vous nous mettez à trancher ça ici, là, ça sera chaud pour nous. Donc, nous préférons attendre et suivre. Voilà, c'est eux qui ont les outils nécessaires, les compétences requises pour véritablement donner une suite à cette saisine. D'accord. En tout cas, nous sommes des passionnés qui suivons l'affaire, tout simplement.
Docteur Ahmadou Touré, si l'un des cas venait se produire, notamment si la Cour constitutionnelle remet en cause la procédure des partis politiques et donne raison à l'État, quel sera l'avenir du pays sans partis politiques?
Bon, je ne dirais pas à ce niveau, je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste. Parce que quand un gouvernement prend des dispositions pour refonder ou revoir un peu sa gestion ou la gestion des partis politiques, c'est que le gouvernement a estimé qu'à un moment, il faudrait revoir. Maintenant, la question de dissoudre ou de supprimer les partis politiques, certainement, va avoir des incidents. Ça va avoir, mais je ne dirais pas lesquels parce que c'est très difficile. Parce qu'il faut être politique, il faut comprendre que les partis politiques dans d'autres objectifs que la conquête ou la reconquête du pouvoir, la gestion du pouvoir. Donc si ces partis n'existent plus, donc ça va jouer sur les partisans de ces partis. Mais la question que le doyen a soulevée, c'est que si le gouvernement, la Cour confirme la constitutionnalité, ce qui va se passer, c'est que la charte, tout va continuer. En ce moment, tout va continuer. Pour amener une nouvelle charte avec des nouveaux partis et politiques avec de nouvelles refondations. Au cas où c'est le contraire, donc le gouvernement va abandonner le projet de charte, mettre les partis à l'État, revoir quel mécanisme pour assainir. Mais j'estime que je fais confiance à la séparation des pouvoirs parce que j'ai vu dès le départ que le contentieux joue son rôle, l'État joue son rôle. les avocats jouent leur rôle et que la procédure suit son cours, conformément à la Constitution. Donc le fait que le tribunal de la grande instance a ordonné le sursis à statuer montre que la procédure suit son cours, parce que ça parle de constitutionnel et inconstitutionnel. Il faut forcément que c'est la cour qui doit et qui devrait trancher. Maintenant, les sages, en fonction des éléments, en fonction des pièces versées, je pense que les décisions seront attendues. Mais j'ose espérer que, quelle que soit la décision donnée, qu'on mette le Mali au devant, on a beaucoup de défis. Parce que moi, c'est pas que mon avis, c'est qu'il faut qu'on soit optimiste et que la décision donnée soit entérinée et acceptée par tous.
D'accord. Ibrahim Ben Mamata, comment vous imaginez un pays sans parti politique?
Bon, ça, ça sera un choc, ça sera une désolation, parce que je me dis que c'est un retour au systémique à des temps non souhaités. Aujourd'hui, dans ce monde, il faut ce jeu démocratique, il faut qu'il y ait un mode d'accession au pouvoir tel que nous l'avons connu, à travers des partis politiques, à travers des élections qui se font. Sans partis politiques, nous allons assister à la confiscation du pouvoir entre les mains d'un seul individu.
Est-ce qu'on peut parler également de démocratie?
Non, on ne peut pas parler de démocratie en tant que telle. Ce serait une démocratie obsolète, une démocratie, fantoche, je dirais. Parce que ceux qui sont les animateurs de cette démocratie, ce sont les acteurs politiques. D'accord. S'ils ne sont pas là, peut-on parler de démocratie? C'est difficile.
D'accord, c'est sur ce mot que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur la dissolution de partis politiques, la procédure à renvoyer devant la Cour constitutionnelle. Nous étions avec Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste, Dr Ahmadou Touré, expert en médiation et gouvernance locale. À la présentation, c'était Imran Akil Omega. Merci de l'avoir suivi.
Grand dialogue.